CV et Thomas Gauthier.
Pascal CV qui est toujours à Nashville, elle devrait être de retour mercredi avec nous. D'ici là, ben, c'est Audrey Pinchot qui la remplace. Actuellement sur Québec, c'est 19 degrés, c'est très confortable. Pour ce qui est de l'humidex, ça pourrait être une température ressentie de 28 degrés, max de 23. Ce soir, cette nuit, ciel nuageux, minimum de 16 degrés. Demain, mardi, alternance de soleil et nuages avec 40% de probabilité d'averse en après-midi, maximum de 31. Et là où ça va jouer... Ça va faire une petite différence, on va dire ça comme ça. Pour les gens qui travaillent à l'extérieur, je pense aux gens qui font l'asphalte ou encore aux gens qui font de la couverture. Humidex, température ressentie demain, 41.
Ouch!
Hey, mais qu'est-ce que tu fais quand t'es travailleur à l'extérieur pour t'aider un peu?
Je bois
de l'eau?
Ben, tu bois de l'eau.
Tu mets un ventilateur vers la fenêtre qui n'existe pas pour pousser l'air chaud.
Bon, fallait être là avant la pause pour la comprendre. Mais oui, tu essaies de boire le plus possible. Il y a des gars qui ne rentreront pas demain.
Je pense que c'est une bonne affaire.
Pour faire de l'asphalte ou encore de la couverture. Il y a des entrepreneurs qui vont rentrer pareil, mais il y en a d'autres qui vont dire « ben moi, je vais passer... »
Fais des demi-journées.
Je vais passer mon tour. Ben oui, commencez plus tôt. Quoique, quand tu fais de la couverture, commencer à 5 heures, ça te fait de tonnerre les voisins.
C'est vrai que c'est pas l'idéal.
Donc, demain, mardi, alternance de soleil et nuages, maximum de 31, humidex de 41. Mercredi, ensoleillé, maximum de 32. Jeudi, alternance de soleil et nuages avec un maximum de 32. Et vendredi, ensoleillé, maximum de 26. Donc, c'est des températures comme à Cancun, sauf qu'on ne paye pas.
On n'a pas les palmiers et on n'a pas l'alcool gratuit.
Exactement.
Tout, c'est un peu plus tannant.
Exactement. Article très intéressant dans le Soleil. En fait, c'est le bureau d'enquête du Soleil qui nous rapporte cet article-là. On parle d'immigration illégale. Depuis quelques années, on parlait du fameux chemin Roxham qu'on a fermé il y a de ça peut-être un an et demi. Des gens qui provenaient d'un peu partout, qui montaient vers le Canada, passaient par ce chemin-là. Ça facilitait un peu leur l'accès pour le Canada. On les accueillait, on les prenait en photo, on prenait leur empreinte digitale, on montait des dossiers pour être sûr et certain qu'on sache qui est sur notre territoire. Puis après ça, on leur trouvait des endroits pour se loger, on leur donnait un peu d'argent pour se partir dans la vie. Puis si tel était leur désir, ils pouvaient avoir un genre de permis de travail, que ce soit temporaire ou non, le temps de pouvoir rectifier la situation, à savoir si elle est acceptée comme immigrant ou encore si elle est être déportée de l'endroit où ils sont nés. Mais là, on s'aperçoit qu'il y a un autre type d'immigration. Ça existe depuis des décennies, mais c'est des gens qui font le chemin contraire maintenant. Donc, des gens qui arrivent à l'aéroport de Montréal, qui disent « ben moi, je demande un statut de réfugié ici », on est obligé de les accepter, puis ça fait en sorte qu'on les met dans des hôtels à certains endroits, on les loge à certains endroits, et ces gens-là ont d'autres plans, c'est-à-dire aller vers les États-Unis, puis ils passent par certains secteurs où c'est pas fait pour ça, on va se le dire. Parfois, c'est une forêt qui est très dense, c'est pas des spécialistes de la survie non plus.
Mais non, les cours d'eau...
Dans l'article du Soleil, on parlait d'une femme enceinte là, qui fait le trajet entre le Canada et les États-Unis dans le bois.
Ça avait fait jaser, c'était l'été passé.
Elle était sur le point d'accoucher. Son chum ou son mari a dit « Ben garde, attends ici, moi je vais partir chercher de l'aide. » Finalement, elle a accouché toute seule dans le bois. C'est ce genre de situation que tu veux pas qu'il arrive.
Exact.
Puis il y a des villes et des villages qui sont pognés avec les migrants, puis ils disent ben ce serait le fun que là on commence à parler de plus en plus de ce dossier-là, puis qu'on ait peut-être l'aide nécessaire qu'on demande depuis des mois et des mois. Et on a eu idée d'en jaser avec Mme Caroline Rosetti, qui est mairesse de Saint-Armand. Mme Rosetti, merci d'être là.
Ça fait plaisir.
Ça représente quoi à peu près dans votre secteur, dans la ville de Saint-Armand, le passage des migrants, donc des gens qui partent du Canada et qui veulent s'en aller vers les États-Unis? Vous en entendez parler à chaque semaine?
Oui, je vous dirais qu'on a des appels de citoyens au niveau administratif, là, à l'administration, à l'hôtel de ville, au moins une fois par semaine. Au conseil municipal aussi, on s'en fait parler à tous les mois. On a des citoyens qui sont craintifs, qui sont inquiets, qui nous demandent qu'est-ce qu'on est en train de faire. On rassure qu'on continue de cogner aux portes plus hautes parce que ce n'est pas notre juridiction et on n'a pas ni les ressources financières ni humaines pour gérer tout ça. Mais on est un peu à bout de souffle là, de répondre à nos citoyens qu'on essaie de parler ou qu'on essaie d'entrer en contact avec des gens puis qu'il n'y a pas vraiment rien qui se passe.
OK. Dans votre secteur, à vous, c'est la GRC puis la Sûreté du Québec qui sont dans le coin?
Oui, c'est principalement la GRC qui va gérer tout ce qui est en lien avec la frontière. Donc, sur le terrain, ils sont quand même présents. On voit fréquemment des véhicules de la GRC. Un autre problème, c'est que je pense pas qu'ils sont suffisamment présents. Donc, bien qu'ils ont une présence, je pense pas qu'elle est suffisante pour le fléau qu'on est rendu à gérer. Et souvent, ils sont seuls dans leur véhicule, alors qu'ils doivent être deux pour faire une intervention. Donc, avant d'appeler, pouvoir intervenir, ben là, c'est sûr que si on prend pas sur le fait accompli, il y a pas de possibilité d'agir vraiment.
OK. Je me pose une question bête comme ça, là, sans y réfléchir, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on doit intercepter ces individus-là pour les empêcher de passer du côté des Américains? Ce serait pas plus le travail des Américains à ce moment-là, des accueillir, puis dire, ben qu'est-ce que vous venez faire ici, puis après ça, les fichiers?
Ben oui, tout à fait. Dans le sens où, pour la personne, oui, ce que je vous dirais qui est inquiétant présentement, puisque nos citoyens nous relatent, là, ce que je sens qui grandit présentement, c'est l'anxiété, la crainte de ça. Parce que notre municipalité n'a pas bougé, on a toujours été limitrophe avec les États-Unis.
Ouais.
On est habitué de côtoyer la frontière. Okay? Une personne, de façon clandestine, qui traverse à un moment donné, bon, ça fait le tour du village, une journée ou deux, puis c'est fini parce que c'est une personne qui cherchait une meilleure vie. Là, on a des gens organisés qui arrivent avec un véhicule près de la frontière, soit qui débarquent des gens, soit qui attendent des gens de l'autre côté. Donc, il y a une organisation, puis je dirais que le fait que ce soit organisé, bien, ça amène des inquiétudes de criminalité au niveau de mes citoyens. Même au niveau de dire, est-ce que j'ose appeler la GRC ou est-ce que je vais devenir identifié et potentiellement c'est victime de XYZ. On n'a pas connu encore de tragédie ou rien, mais mes citoyens m'ont rapporté que c'est pas seulement des humains qui traversent. Souvent, ils ont des paquets non identifiés. Je ne m'aventurerai pas dans... C'est pas mon expertise, mais...
Non, mais on comprend très bien. Oui, on comprend très bien. On nous dit qu'il y a des véhicules aussi qui sont abandonnés sur des terres agricoles. Donc, les gens s'enlisent sur le terrain, puis laissent les véhicules là, puis continuent leur chemin. Donc, ça prend quelques semaines avant de libérer ces véhicules-là. Est-ce qu'on m'a expliqué? Là,
Oui. Quelques semaines et quelques mois même. Là. C'est sûr que, en tout cas, une en particulier, c'était au niveau... côté des États-Unis, mais j'ai un citoyen, moi, qui est vraiment son terrain est limitrophe et s'est retrouvé un matin avec un véhicule à cheval sur la ligne. Et là, un petit débat de c'est à qui de venir chercher le véhicule appartient à qui va défrayer pour ça. Même chose pour une clôture qu'un citoyen avait qui était défoncée là, au mois de février. Là, la balle était partout sauf où elle devait être. Donc, par exemple, la SQ nous disait, ben, vous devez retrouver les gens qui l'ont brisé, qui sont maintenant aux États-Unis, et rendre des démarches civiles contre eux pour qu'ils remboursent. Vous voyez là, que là, c'est le citoyen qui se retrouve dans un impasse ou à débourser pour tout ça.
La GRC vous dit quoi? Hein? Parce que vous semblez pas avoir de support, un support énorme de la GRC. Là. Ils n'augmentent pas le nombre de patrouilles dans votre secteur. Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Je vous dirais qu'on a été très, très déçus. Ils nous ont proposé, on avait une belle collaboration, une belle proximité. Avec les gens qui sont sur le terrain, ça va super bien. Quand on monte les échelons un petit peu, là, on est bloqué. On avait une belle collaboration, on s'était annoncé une rencontre le 29 mars pour nos citoyens, pour rassurer, pour qu'ils puissent expliquer c'était quoi la vision ou le plan. Puis finalement, le matin même, on nous annonce que c'était pas des démarches qui auraient dû être entreprises. Ils s'excusaient, mais la rencontre est annulée. Et je voudrais que depuis ce temps-là, nous, on est un peu fâchés là, de voir que les portes se ferment alors qu'elles devraient s'ouvrir. Je pense qu'on aurait intérêt à travailler tout le monde ensemble et en amont. On a même les Border Patrol aux États-Unis qui discutent régulièrement avec nous et qui voulaient venir à cette rencontre-là pour dire, ben si on est tous dans la même longueur d'onde, où on agit tous dans le même sens, on va contrer ce fléau-là plus efficacement. Mais c'est pas
que là, vous êtes comme
trop d'explication.
Il n'y a pas de mesure que vous pouvez prendre en ce moment. Vous êtes comme bloqué, là.
Nous, on n'a pas de mesure. Premièrement, c'est pas notre juridiction. Et même si, vous voyez là, où est-ce que la clôture avait été défoncée, etc., on a quand même mis à court terme là, la municipalité des blocs de béton. On avait nos employés des travaux publics, mais c'est une petite municipalité en soi. Donc, on a deux employés aux travaux publics. On a mobilisé notre équipe. Parfait, on met les blocs de béton, tout ça. À ce jour, il y a une facture qui est envoyée à la GRC pour les blocs, etc. Ben, en tout cas, aux instances qui devaient payer, qui demeurent impayées. Donc, on parle de pas loin de 600 $ là, qui est impayé parce que tout le monde se renvoie la balle, c'est pas à eux, gère pas le matériel, etc. Puis là, nous, ben, on est dans un dilemme de dire, on veut rassurer nos citoyens, mais on veut pas commencer à entreprendre cette gestion-là. Elle n'est pas la nôtre et ça devrait pas être à nous de le faire. On n'a pas les ressources financières ni humaines pour le faire.
Entièrement d'accord avec vous. Quand le chemin Roxham était ouvert, aviez-vous aussi cette problématique-là?
Non, on n'avait jamais vu des groupes de personnes. Là, on parle de 10-12 personnes des fois qui traversent, qui ont traversé à plusieurs reprises. C'est pas juste l'événement d'une fois, là. Encore le mois passé, on s'était rapporté ça. Au point où certains citoyens abandonnent, ils font juste à dire, ben oui, ça traverse encore. Ou, comme je vous dis, ben, ils continuent de communiquer avec nous, mais on a l'air, nous aussi, de répéter la même cassette, de dire, oui, inquiétez-vous pas, on essaie, mais. Il n'y a rien qui se passe.
Parce que je regarde les statistiques pour ce qui est d'avril avril dernier. Bien honnêtement, moi, je pensais qu'à travers le Canada, c'était peut-être 1000 personnes là, qu'on prenait du côté des Américains. On était juste pour le mois d'avril, moi, je te dis, à peu près 1000 personnes par mois, juste pour le mois d'avril, 16 750 personnes qui ont été arrêtées en sol américain après avoir traversé la frontière avec le Canada. On n'a pas les statistiques pour ce qui est du chemin inverse. Ah, peut-être une cinquantaine, tu m'as dit, Tom, tantôt, ça se peut-tu?
Oui, à peu près.
À peu près une cinquantaine?
Oui, c'est pas un énorme fléau là, dans l'autre sens. Je vous dirais que depuis, quand même, là, je suis étonnée en avril, mais depuis que le fédéral a modifié les normes au niveau du visa mexicain, je pense que ça s'est amélioré un petit peu par rapport à l'entrée aux États-Unis, mais c'est sous toute réserve. Là, j'ai pas de chiffres exacts ni de données sur la nationalité des gens qui traversent. J'ai quand même demandé, moi, à mes citoyens de tenir un registre pour de façon officieuse pour qu'on puisse avoir un peu la date puis le type d'activité qu'ils ont vu, parce que un jour, quand je vais réussir à rencontrer des instances gouvernementales plus hautes, j'aimerais avoir quelques données pour dire là, c'est pas juste des oui-dire.
Oui, parce qu'au départ, quand on lit l'article, on se dit, mais pourquoi ne pas les laisser passer tout simplement, parce que les Américains vont s'en charger de l'autre côté, mais je suis entièrement d'accord. En vous jasant, tu sais, des fois, quand on va aux sources, on comprend peut-être un peu plus de choses. C'est qu'il y a des groupes criminels qui s'occupent de faire passer ces gens-là.
C'est spanier.
Si jamais les citoyens décident, hey, t'as peur, là, vous êtes sur mon terrain, les citoyens interviennent, puis là, les gens disent, ouais, ouais, mais non, nous autres, on passe ici, la police n'est pas là, il peut subvenir plein de troubles. Donc, on comprend l'inquiétude des citoyens dans votre secteur. Là.
Exact. Ben, c'est ça. C'est une crainte de ne pas savoir, de ne pas nécessairement sentir un soutien aussi, là, parce que c'est beaucoup de belles paroles. Puis peut-être que les gens sont à l'écoute, mais là, on est dû pour une rencontre, on est dû pour un plan d'intervention. Ça fait un an et demi qu'on le demande, nous, quelle est la vision, quels sont les objectifs, comment on va faire, combien d'équipes on déploie pour y arriver ou pour améliorer la situation. Puis on n'a rien de tout ça. On n'a rien dans l'action, tout le temps dans...
Est-ce que vous avez rencontré Pascale Saint-Onge, la ministre?
Pardon, excusez-moi.
Est-ce que vous avez rencontré Pascale Saint-Onge, la ministre?
Non, on est en communication assez fréquente avec son bureau. On a une écoute, on a une réponse à nos appels, mais il n'y a pas de démarche d'entreprise officiellement.
Bonne chance pour la suite.
Ben, merci.
Merci. Caroline Rosetti, la mairesse de Saint-Armand, qui nous annonce qu'il y a une problématique dans son secteur, là, des migrants qui atterrissent à Montréal, qui arrivent au Canada comme immigrants ou comme réfugiés, puis qui décident, eux, d'aller vers les États-Unis. Il y a même des gens qui les attendent aux États-Unis avec des voitures pour les disperser un peu plus loin là, dans le chemin.
C'est fou, hein?
Mais tout semble être organisé. Puis ce qui m'impressionne, c'est que pendant que le chemin Roxham était ouvert, elle n'avait pas ce genre de problématique-là. Mm. Du moins, c'était peut-être un peu moins rapporté.
Mm. Bien, ça, en même temps, c'est logique. Je veux dire, quand tu n'as plus de possibilité quelque part, tu en ouvres ailleurs. Là. Mais tu vois, c'est niaiseux parce que c'est tellement logique, j'avais pas pensé au côté criminel. Moi, dans ma tête, c'est des gens vraiment qui cherchaient une meilleure vie. Puis j'ai toujours eu un peu pitié pour ça, honnêtement. J'ai toujours été un peu, je veux pas dire attendrie par ces histoires-là, mais tu te dis, il y a du monde qui vit des atrocités. C'est une possibilité.
Mais c'est ça. Prenons un exemple d'un agriculteur qui, lui, est en train de cultiver ses champs. Puis là, tout d'un coup, il y a des camionnettes qui se promènent au travers de ses champs, au travers de ses récoltes, décide d'intervenir en disant, hey, parce que là, t'es pas chez vous, là, puis t'es en train de détruire mes récoltes à moi. Puis là, ben, le gars sort du char, puis il dit, ben ça se peut que t'aies une visite la semaine prochaine si tu ne laisses pas passer. Mm. Qu'est-ce que tu fais?
Des menaces, ouais.
Tu sais, il sait où t'habites, là.
Ça fait peur.
Tu fais quoi? Parce que oui, les migrants, comme tu dis, ils veulent une vie meilleure. je les comprends un peu, ils sont atterrés à Montréal. Mais. Excusez, c'était trop facile.
C'est le monde-là qui chiale sur nos affaires à Québec. Les maudits.
Mais eux, d'après moi, il n'y a pas grand-chose à craindre, mais les groupes criminalisés qui permettent.
Il y en a qui portent des armes.
À ces gens-là, ben oui, effectivement, de passer, eux sont un peu plus, peuvent être un peu plus dangereux. Quelqu'un qui m'écrivait tantôt en disant pour ce qui est des réserves amérindiennes, oui, on sait qu'il y a des migrants qui passent par là. Puis ça, ben, c'est avec une augmentation de patrouilles sur ces cours d'eau-là qu'on va être capable d'intercepter ces gens-là. Mm. Puis comme elle l'a mentionné, elle n'a pas voulu trop rentrer dans les détails, Mme Rossetti, mais oui, il y a des migrants qui passent d'un bord et de l'autre, mais il y a des gars et des filles qui passent avec des colis.
Ouais, suspect un des peu, là.
Des petites boîtes.
Oui. C'est sûrement des cadeaux.
Oui. Alors, on a dit que ça peut être végétal, fait que c'est pas si dangereux que ça.
Quand même.
Oui, c'est ça. Midi 45, on fait une courte pause. Des choses à me dire. C'est le 88-971-1021. 88-971-1021.
Marceau le midi.